Musique, transe et cerveau, c'est la règle de trois de Corinne Sombrin. La musique l'accompagne depuis toujours. Études de piano et musicologie, mise au point d'une méthode de solfège mêlant informatique et bande dessinée et création d'une école de musique à Cannes qu'elle a dirigée pendant 15 ans. Quand son conjoint meurt d'une longue maladie, Corinne Sombrin s'exile à Londres. Elle compose notamment des musiques pour accompagner des documentaires de la BBC. Son enfance au Burkina Faso lui inspire le goût de l'ethnomusique. Une rencontre avec un chaman péruvien, Francisco Montes, l'oriente vers un autre chemin. D'après lui, en trouvant le son qui lui correspond, elle trouvera l'harmonie. C'est le son d'un tambour justement qui déclenche sa première expérience de transe lors d'un reportage sur un rituel chamanique en Mongolie. Elle saute, bouge, hurle comme un loup, sans comprendre ce qui lui arrive. Après avoir jugé, rejeté, douté, elle accepte. Suivront 8 ans d'initiation de rituels chamaniques, une expérience racontée dans Mon initiation chez les chamans, puis par Fabienne Berthaud dans le film Un monde plus grand. Cécile de France incarne son personnage.
Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici.
Les chamans peuvent communiquer avec les morts?
Oui.
Voyage au cœur de la transe, c'est aussi le sous-titre de son nouveau livre, La Diagonale de la Joie. Son cerveau, elle le fait fonctionner à plein régime grâce à des rencontres décisives. Pierre Etévenon, pionnier des états modifiés de conscience, Arline Geronimo, medicine man, et Almir Narayamoga Suri, chef indien d'Amazonie. Un temps moqué par les scientifiques, celle qui a créé le Trans Science Research Institute collabore aujourd'hui avec des neuropsychiatres pour utiliser la transe à des fins thérapeutiques.
Ce dont on peut être certain, c'est que ce que nous percevons du monde, ce que nous voyons, n'est pas le monde, mais est vraiment un modèle du monde créé par notre cerveau.
Elle veut démontrer que chacun de nous peut entrer en transe, comme elle, par sa seule volonté. Peut-être a-t-elle enfin trouvé son harmonie.
Mais oui, justement, Corinne Sombrin, à quoi sert une transe chamanique? À rétablir l'harmonie qui aurait été brisée entre les vivants et les esprits?
Oui, dans la tradition chamanique, le chaman est le lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Pour eux, l'invisible est très important, et dans l'invisible, il y a le monde des esprits. Et ce monde des esprits est garant du maintien de l'harmonie dans le monde. Donc ils ne prennent pas de décision sans faire une demande à ce monde des esprits au travers de la transe. Donc l'outil pour accéder à ce monde des esprits, c'est la transe.
Alors on a vu que vous avez vécu ce moment en 2001, où vous avez été stupéfaite de ce que vous étiez, de ce don qui était le vôtre. Ensuite, il y a eu une initiation pendant 8 ans. Pourquoi votre chamane mongole vous a-t-elle surnommé Chichi Koshkonok, ce qui veut dire petit trou du cul? Parce que vous étiez rétive, malicieuse, sceptique? Comment se fait-il?
Surtout que j'arrêtais pas de poser des questions, parce que évidemment on est confronté à des états qu'on connaît pas, on se voit en train de faire des choses qu'on n'a pas décidé de faire, notamment pendant la transe, qui est un état dissociatif. Oui. Et forcément on pose des questions, du genre ben, comment j'arrive à tenir un tambour pendant des heures et entrer en transe en même temps, qui pèse 8 kilos, et puis être en transe en même temps, pour moi c'était pas possible. Donc à chaque fois il me répondait, les esprits t'enseigneront. Donc à force de poser des questions auxquelles j'avais jamais de réponse, c'était toujours les esprits t'enseigneront. Parce que pour eux, c'est le vécu de la transe qui va faire qu'on va comprendre les choses. C'est un peu, si vous voulez comprendre ce qu'est l'eau, bah, il faut plonger dedans. Et puis voilà. Et donc là, c'est un peu la même chose. Et chaque fois, il m'énervait vraiment à répondre, les esprits t'enseigneront.
Donc c'était petit trou du cul, tais-toi.
Donc j'ai mérité mon surnom de
Chichi Koshkonok.
Chichi Koshkonok.
Vous dites que la transe est un état dissociatif. Ça veut dire que lorsque vous viviez ces transes, notamment au début, vous étiez capable de dire, je hurle comme un loup, mon museau s'allonge, j'ai l'impression d'avoir des pattes, tout en vivant. C'est-à-dire que vous viviez, vous ressentiez et vous décriviez.
Exactement. Le phénomène dissociatif fait qu'on se voit en train de faire quelque chose. On est conscient pendant tout le moment de la transe. Si on n'est pas conscient, c'est qu'il y a un problème.
Oui.
Et donc on se voit en train de faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. Par exemple.
C'est vous.
Voilà, c'est moi ça.
C'est vous.
Oui. Mais ça peut être aussi le cri de la fourmi, hein. Ça peut être le cri de l'escargot, ça peut être plein de choses, hein. Bon, il se trouve que le loup, ça s'entend. Et donc on se met à faire des choses, mais on a en même temps un besoin irrépressible de faire ces choses. Voilà. Alors, la première fois que ça arrive, évidemment, c'est étonnant, puisque ma culture à moi m'a jamais dit que ça pouvait arriver, ce truc-là.
Il vous est arrivé des choses assez étonnantes. Vous avez failli mourir à l'âge de 11 mois, je crois. Vous avez été témoin d'une transe quand vous aviez 6 ans. Et puis, vous êtes parti en Mongolie pour communiquer avec lui. À la base, il s'agissait pour vous de retrouver, par-delà la vie et la mort, un homme qui était mort et qui était l'homme que vous aimiez, c'est ça? Et qui vous avait dit, retrouvons-nous là-bas?
Alors, c'était pas lui, c'était elle. Et oui, c'était un rendez-vous. Là aussi, ma culture m'a pas expliqué à moi, à part au travers de la religion chrétienne, comment retrouver l'autre quand il est parti. Mmh. Et je lui avais promis que je la retrouverais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors quand le chaman, parce qu'être chaman, ça, je m'en fichais complètement, ça m'intéressait
pas.
Vous êtes
chaman ?
Non. Mais je dis toujours que, en fait, là, c'est pas parce qu'on dit une prière qu'on est curé. Et donc pour moi, la pratique de la transe, c'est une pratique dans le chamanisme, mais c'est pas ça qui fait le chaman. Je suis transeuse,
c'est
voilà.
Ça.
C'est ça.
Anne.
Oui, les anthropologues, notamment Claude Lévi-Strauss, ont longtemps considéré comme le chamanisme comme une mise en scène culturelle, de croyances collectives. Vous avez développé, vous avez travaillé sur l'aspect cognitif, voire scientifique. C'est les deux choses à la fois. Comment vous le voyez ?
Comment je vois quoi ?
Le chamanisme, l'accès à la transe, est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est cognitif ? Est-ce que c'est...
Alors, la transe, l'état lui-même, ouais. On a démontré que c'était cognitif, que tout le monde même avait accès à la transe, et on a développé une méthode pour permettre à chacun d'induire la transe par la seule volonté. Mmh. Voilà, ça c'est nos grandes découvertes. Après, la transe en Mongolie se pratique dans le cadre d'un rituel qui est propre à chaque culture.
Donc culturel, c'est
voilà.
Ça.
Donc c'est les deux.
Des transes cognitives auto-induites, c'est ce que vous faites. Mmh. On vous a vu avec des électrodes sur la tête. Et vous cherchez évidemment les applications thérapeutiques. Il y a un protocole qui a démarré à propos de l'oncologie pour tenter de soulager, et pas seulement peut-être, des patients par rapport à la douleur éprouvée. Et puis des applications également spatiales. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, en oncologie, on va commencer un premier protocole qui est financé par la Fondation contre le cancer en Belgique. Ça se passe au CHU de Liège avec les docteurs Gosseries et Van Ondeneuys. Donc, on va former déjà des patients qui ont terminé leur traitement en oncologie, qui ont des cancers, qui ont terminé leur traitement et à qui on va apprendre la transe. Et à partir de là, on va les observer pendant 4 ans et voir quels bénéfices ça peut avoir sur... pas directement sur la pathologie, parce qu'ils sont censés plus la voir, mais sur la qualité de vie, sur le stress, sur la douleur, sur la détresse émotionnelle, tout ça.
Et alors, des spationautes vont peut-être bénéficier des trouvailles faites par les scientifiques sur la transe ?
Eh bien, ils ont accepté un projet dans l'avion 0G, donc j'aurai pareil un casque G sur la tête, je devrais vivre des transes en apesanteur dans l'avion 0G, pour voir quel serait le bénéfice de la transe dans le cadre de l'apesanteur, oui, oui. Ouais.
Alors, on va évoquer avec vous, Corinne Chambrin, et avec Nadia, ceux qui utilisent une certaine plante, l'ayahuasca, pour entrer en transe.
En tout cas, il se passe quelque chose d'assez inquiétant au sujet de cette ayahuasca. C'est donc une décoction qui associe une liane à une plante. C'est un breuvage qui est utilisé pour ses effets purgatifs, mais aussi pour les hallucinations très puissantes qu'il peut provoquer. Et les dérives, elles sont indéniables. Elles sont pointées, vous l'avez fait d'ailleurs, dans le 1 hebdo. Elle est interdite dans beaucoup, beaucoup de pays. Elle doit être préparée, consommée dans un cadre strict, surveillé. Et pourtant, je l'ai vérifié encore aujourd'hui, on en trouve très, très facilement sur Internet, mais coupée avec des substances dangereuses. N'importe qui, ça aussi je l'ai vérifié, peut booker depuis la France un voyage pour se rendre dans des bars qui sont installés pour ça, donc en pleine forêt péruvienne pour en consommer. Et un autre effet pervers, plus grave peut-être encore, c'est que cette demande occidentale qui est très forte, de plus en plus forte, ça crée in fine une pénurie de matières premières et les cueilleurs amérindiens sont contraints de s'enfoncer de plus en plus loin dans la forêt pour aller la chercher, cette laine-là. Comment est-ce qu'on freine ce phénomène? Ça suscite un intérêt, ça c'est certain, mais on voit bien que ça a des conséquences graves, voire mortelles.
Oui, bien sûr. Oui, avec des déclenchements de problèmes psychiatriques, sur des fragilités psychiques, par exemple. Et comme les chamans là-bas ne sont pas formés aux fragilités psychiques, ils ne sont pas formés à ce qu'on connaît.
Mais ça crée donc, un tourisme de masse.
Un tourisme chamanique, oui, bien sûr. Là-bas, aujourd'hui, on vous propose à Iquitos, par exemple, au Pérou, on vous propose de l'ayahuasca dans les bars, juste comme on fait un tour de manège. Mais la société du zapping ici, on a envie de tout essayer, tout tenter pour le frisson. Mais c'est pas étonnant dans la mesure où on a besoin d'embrasser les arbres, on a besoin d'avoir un autre rapport au monde. On est tellement dans le mental, on est tellement
on est tellement dans l'hémisphère gauche, diriez-vous. Et il faut libérer, c'est ça, notre hémisphère droit. Et les trans contribuent à ça. Une dernière question, Corinne Sombrin. Dans votre ouvrage La Diagonale de la Joie, qui est absolument passionnant, vous dites, si il me restait 3 minutes à vivre, je crois que je ferais une trans. Mais plus généralement, vous considérez que pour des patients en fin de vie ou en soins palliatifs. On va faire un débat justement dans un instant sur la fin de vie. La transe pourrait les aider à mourir dans l'extase. Ce n'est pas une lubie.
C'est pas une lubie, c'est quelque chose qu'on vit pendant les trans, et on se dit que si on apprenait aux gens à vivre des trans, parce qu'on sait que la mort est un état modifié de conscience ultime et très puissant, et que peut-être si on apprenait aux gens à vivre cet état, pas celui de la mort, mais de modifié de conscience de la trans avant de mourir, c'est certain que le vécu de cette trans au moment du passage permettrait d'éliminer la douleur, d'avoir plus de force psychique comme physique, et d'avoir accès à plus grand que soi. Et moi, je dirais la pratique de la transe a vraiment réglé ma peur de la mort.
Voilà. Et ça permet d'ouvrir la porte sans peur, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça, en disant que c'est une transformation, là encore.
Écoutez, c'est une conclusion absolument parfaite. Merci Corinne Sombrin.
Merci.
Votre livre, votre dernier livre, La Diagonale de la Joie chez Albin Michel, il est remarquable. Merci d'être venu.